France Inter, le 7-9.
Il est 7h47, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est le président du MEDEF.
Bonjour à vous, Geoffroy Haute-Bézieux. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler dans un instant du G7, de l'université d'été du MEDEF qui s'ouvre demain. Mais d'abord, la grande annonce d'Emmanuel Macron hier, c'était sur les retraites. Le président semble désormais plus favorable à la prise en compte de la durée de cotisation plutôt que de l'âge de départ. Avez-vous sursauté en entendant cela hier et est-ce que vous êtes déçu ce matin ?
Sursauté, non, on est quand même un peu surpris d'abord sur la méthode, puisqu'on a passé 18 mois de concertation avec le haut-commissaire Delevoye, d'arriver à un rapport qui était plutôt consensuel au mois de juillet. Et là, alors j'ai bien qu'on est en 5e République, le président, au détour d'un interview, rechamboule un peu tout. Sur le fond, il faut dire la vérité, il faut faire les deux. On a une impasse financière en 2025 et il faudra augmenter, accélérer ce qu'on appelle la réforme Touraine, c'est-à-dire le nombre d'annuités qui doit passer à 43 années. Mais on ne fera pas l'économie de l'âge et c'est mentir par omission français dire le contraire avec la démographie
mentir
qu'on a.
Mentir par omission, vous diriez que ce qu'a dit hier le président de la République, c'est un mensonge par omission de...
Je ne vais pas accuser le président de la République de mensonge par omission, je dirais simplement que la vérité, c'est qu'on est dans un système par capitalisation. D'ailleurs, je pense que les Français l'ont compris. Capitalisation, ça veut dire que c'est les actifs qui payent pour les retraités. On est le seul pays au monde à avoir 100% de capitalisation. Donc, avec la démographie qu'on a, il n'y a pas 36 solutions. D'ailleurs, la vérité d'aujourd'hui, c'est que la retraite, c'est pas 62 ans. Dans le privé, les gens qui partent à la retraite aujourd'hui partent à 63 ans. Et donc, oui, on n'échappera pas à un système, juste pour finir, autour de l'âge. Que ça soit l'âge pivot, que ce soit la décote, on n'échappera pas à un système.
Vous vous dites ce matin, même si ce n'est que l'âge pivot, puisque vous souhaitiez une officialisation de l'âge du départ à 64 ans et pas cet âge pivot qui est un peu plus flou, on va dire, vous dites il faut surtout pas abandonner ça dans la retraite finale, dans la réforme finale.
Dans le projet final, c'est ce qu'on dira en tout cas le 6 septembre quand on sera reçu par Édouard Philippe. Vous savez, malheureusement, la retraite, c'est pas de l'idéologie. C'est des faits, c'est des statistiques, c'est de la démographie, c'est de la mathématique d'une certaine manière. Alors après, là où le président fait une ouverture, moi je suis pas fondamentalement contre, c'est que le système âge pivot imaginé par Delevoye, c'était collectif, c'était la même règle pour tout le monde. L'annuité, le nombre d'annuités, il est individuel. Essayer de mettre une notion d'individualité pour prendre en compte les gens qui ont commencé à travailler tôt,
oui, pour éviter ça, c'est les pas effets de seuil.
J'ajoute un dernier point important, je redis à chaque fois, si on va dans cette réforme, il faudra que nous, les entreprises, on sache mobiliser pour employer les gens à partir de 62 ans, parce que c'est le problème aujourd'hui, et on a aussi un effort à faire.
Mais vous n'avez pas l'impression que c'est une manière d'enterrer la réforme, ou au moins de revoir les ambitions clairement à la baisse.
Vous me posez une question politique, je ne suis pas un homme politique.
Non, je vous pose, ce n'est pas une question politique.
Si,
c'est la durée de cotisation et pas l'âge, c'est clairement, c'est pas
j'espère
politique.
J'espère que ça n'est pas, entre guillemets, une manœuvre pour enterrer la réforme.
Le G7, mise en scène soignée, volontarisme dans la forme, des rebondissements. Diriez-vous qu'Emmanuel Macron a réussi le sommet de Biarritz ?
Écoutez, j'ai envie de dire que la France a réussi son sommet. Bon, il y a bien sûr l'aspect individuel et politique, mais la France a réussi son sommet et j'espère le monde se porte un tout petit peu mieux. On est en guerre froide économique depuis quelques années. Et ces tensions-là, j'ai peur qu'elles se dissipent pas avant longtemps. Ce qu'a réussi Emmanuel Macron, c'est mettre un peu de multilatéralisme, un peu d'échange, un peu de bon sens dans un monde quand même très très compliqué qui nous inquiète. Donc oui, c'est une réussite.
Vous dites le monde nous inquiète. Jean-Claude Trichet, l'ancien patron de la BCE, affirme qu'une récession économique est inéluctable. Est-ce que vous la constatez déjà aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un ralentissement concernant la France ? Est-ce que vous ressentez un ralentissement de l'économie française ?
On a des signaux contradictoires parce que à l'international, il y a un énorme ralentissement qui est en train de se produire partout à cause de cette guerre économique. Mais en France, ça tient plutôt bien. Et ça tient pour deux raisons. La première, c'est qu'on est malheureusement un pays moins exportateur, donc moins dépendant finalement de la conjoncture mondiale. Puis il y en a un autre qu'il faut dire. Depuis maintenant 4 ans, il y a un ensemble de mesures qui ont été prises pour les entreprises. Pacte de compétitivité d'un côté et les ordonnances travail.
Vous dites 4 ans, donc Hollande et Macron.
Je dis 4 ans et je vais même vous faire sourire avec un chiffre. Entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2019, les entreprises privées ont créé 936 000 emplois. Ça vous rappelle peut-être quelque chose.
Le million, le pins.
Alors, je ne suis pas venu avec un pins.
Vous n'allez pas nous sortir le pins, c'est pas possible.
Minutes, quand on aide les entreprises, quand on baisse les charges dans ce pays qui paye trop d'impôts, entreprises et particuliers, eh bien, oui, ça prend du temps, mais oui, les emplois sont créés.
Geoffroy Haute-Bézieux, le G7 s'est achevé avec un accord trouvé avec les États-Unis notamment sur une taxation internationale des GAFA, les géants du numérique. Pour l'instant, c'est qu'un accord de principe. On n'en connaît pas les contours, mais est-ce que ça va dans le bon sens ?
Alors, nous, on soutenait depuis le début cette taxe. Ça n'arrive pas tous les jours que le MEDEF soutienne une taxe. Et pourquoi ? Même si cette taxe est idiote sur son principe, parce que c'est le signal politique qu'il fallait, on est pour la concurrence.
Elle est idiote, mais vous la soutenez.
Oui, elle est idiote. Pourquoi elle est idiote ? Mais je vais dire pourquoi ? Parce qu'elle est sur le chiffre d'affaires, donc c'est absurde comme système, mais on la soutient. Pourquoi ? Parce qu'il fallait un signal politique. On ne peut pas faire de la concurrence par la symétrie fiscale. L'accord, c'est pas vraiment un accord hein, qui a été annoncé. C'est un espèce de principe qui dit que le jour où il y a une taxe mondiale, ou en tout cas au CDE, alors la France retirera, ce que d'ailleurs Bruno Le Maire avait toujours dit, retirera sa taxe et on remboursera l'éventuelle différence. Je sais pas d'ailleurs si ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire si la taxe est supérieure, est-ce que rétroactivement on demandera multinationale
de payer. C'est pas précis pour l'instant. Vous dites j'attends de voir.
Pour résumer les choses, si vous voulez, oui, c'est une taxe idiote, mais le libéralisme que je défends, c'est une concurrence qui n'est pas faite par la fiscalité. Parce que ça, c'est la mauvaise concurrence.
On va y venir au libéralisme et que vous défendez. Encore une question sur le G7 et ses suites. Emmanuel Macron a rejeté en l'état l'accord du Mercosur, cet accord de libre-échange avec le Brésil. Est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que c'est un bon accord à vos yeux ?
Moi, je ne sais pas répondre à cette question. Je veux dire pourquoi. D'une manière générale, moi, je défends le libre-échange. Ça, depuis 30 ans, la mondialisation a des tas de défauts, mais elle a fait sortir des milliards de gens de la pauvreté. Maintenant, il est évident qu'aujourd'hui, un accord international, il doit avoir des clauses sociales et des clauses environnementales. Manifestement, là, on a un problème avec le Brésil. Au-delà des insultes diverses et variées du président brésilien, il y a manifestement un problème dans la politique écologique du Brésil. Donc, qu'on suspende l'accord, il l'a pas condamné, il l'a suspendu, me paraît assez légitime. Et en fait, ces accords, ils ont 20 ans, ils datent d'une autre époque. Il faut les concevoir maintenant avec ce qu'on sait sur la planète et sur les risques de réchauffement climatique.
Alors justement, LVMH qui donne 10 millions d'euros à la forêt amazonienne, François-Henri Pinault qui a annoncé des mesures pour une mode plus écolo et moins polluante. On sent bien la prise de conscience écologique des entreprises, mais ces gestes sont-ils suffisants ? N'est-ce pas, comme disait Dominique Seux à l'instant, du greenwashing, de l'affichage, de la bonne conscience, de l'image même, ça peut être cyniquement de l'image pour apporter des parts de marché.
Peut-être que c'est aussi de l'image, mais tant mieux. Mais je vais prendre l'exemple qu'a cité Dominique Seux. Quand Rodolphe Saadé, donc premier ou troisième groupe maritime mondial, décide de ne pas prendre la route de la Sibérie, les autres groupes, ses concurrents, vont le faire. Là, il faut que les ONG, il faut que les consommateurs, il faut que la population, il faut que les citoyens mettent la pression. Et je recitais Dominique Seux, il est d'une sujette, quand il y a un leader ou quand il y a une entreprise importante qui prend une initiative, elle prend un risque économique. Il faut que derrière, il y ait une pression citoyenne qui s'engage. Et c'est pour ça que le rôle des ONG, j'ai peut-être vous surprendre en disant ça, à mon niveau est important. Quand ils ont une compréhension de l'économie de marché et qu'ils travaillent avec les entreprises, ça fait avancer la planète.
Et pourtant, quand vous entendez Nicolas Hulot, qui avait démissionné ici en disant la chose suivante, le système libéral en son sein, par définition, par essence, parce qu'il recherche le profit avant tout, est incompatible avec l'urgence écologique. Vous dites quoi ? Il se trompe ?
Je pense qu'il se trompe, Nicolas Hulot. Et je vais vous dire, moi, je trouve ça très bien, les prophètes de malheur, mais il faut qu'ils prennent ses responsabilités. C'est toujours facile de se retirer à Saint-Lunaire ou ailleurs et de donner des leçons. Les entreprises, elles prennent leurs responsabilités. Demain ou après-demain, plutôt, à notre ministère du MEDEF, vous aurez 100 entreprises qui vont faire le bilan chiffré, quantifiable, vérifiable de leurs engagements pris il y a 18 mois. Alors, c'est des petits pas. On peut trouver que ça va pas assez vite. Mais là, c'est de la réalité et c'est des choses qui font avancer la planète.
L'université d'été du MEDEF ouvre donc demain. Vous avez dit que ce sera l'occasion pour les chefs d'entreprise de lever la tête. Et vous avez baptisé cette nouvelle édition No Future. Est-ce que vous êtes devenu punk ?
Je l'ai jamais été pour tout vous dire, mais enfin bon, j'avais 15 ans, 77, ça avait une surprise. Donc c'est un petit clin d'œil au Sex Pistols, effectivement. Ouais. Au-delà de ça, c'est nos futurs avec un S, c'est-à-dire qu'on croit que effectivement il y a beaucoup de questions sur le capitalisme qui sont mis et qui viennent d'ailleurs des deux côtés. Vous avez cité Nicolas Hulot, mais souvenez-vous de Vladimir Poutine qui dit l'idée libérale est obsolète. Donc à nous de réinventer le capitalisme et à nous d'inventer le futur du capitalisme.
Vous pensez que l'idée libérale n'est pas obsolète ?
Ah, pas du tout, mais qu'elle doit se réinventer comme elle l'a toujours fait. Et le clin d'œil au punk, c'est que il y a eu des crises du capitalisme, des remises en cause, mai 68, le mouvement punk, il y en a une aujourd'hui, c'est à nous de proposer des solutions.
Dernière question, Geoffroy Roux-de-Bézieux, vous aviez invité dans un premier temps Marion Maréchal-Le Pen à cette université d'été du MEDEF avant de vous rétracter devant la polémique. Cette invitation, c'était quoi ? C'était une volonté de transgresser ? C'était une conviction profonde qu'elle avait sa place au MEDEF ? Ou je sais pas, moi, c'était un pari raté entre potes ? Qu'est-ce qui se passait ?
Non, c'était une des 80 invitées, en même temps que Jacqueline Gourault, Gilets jaunes, que François-Xavier Bellamy, tête de liste, que
Elle a la même légitimité à être là.
Écoutez, elle faisait partie des 80 invités. Après, ça a été pris par les journalistes, par les médias, comme une tribune où elle faisait sa rentrée. Et à partir de là, c'était pas le but poursuivi. Donc c'est pour ça que j'ai annulé.
Geoffroy Roux de Bézieux était notre invité. Merci à vous et belle journée.
Merci Léa.